BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigaudry.
Bienvenue à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Tout pour investir, votre TPI sur BFM Business, en direct à la radio, à la télé, sur le web. Vous retrouvez toutes nos chroniques sur les replays et les podcasts. Et aujourd'hui, on va essayer de changer un petit peu d'air. Oui, oui, ça fait plusieurs jours d'ailleurs qu'on en parle, mais beaucoup des analystes et des spécialistes qui se réunissent à cette table ou à BFM Bourse dans l'après-midi nous disent peut-être de regarder du côté des émergents. On est vraiment fixé, on a un biais comportemental, là, comme dirait Julien Nebenzal, qui vient souvent sur notre plateau, qui nous pousse à regarder, à faire la comparaison entre marché américain, marché européen, mais peut-être commencer à regarder du côté des marchés émergents et puis de s'intéresser aussi à la gestion de la volatilité au quotidien. Regardez le CAC 40 repart à la hausse aujourd'hui, plus 0,6%, 8023 points, mais on a quand même eu une séance de baisse assez marquée hier avec des volumes qui étaient en force. Donc, les marchés émergents, comment gérer un petit peu cette volatilité de marché, aussi bien sur les actions que sur les taux d'intérêt, hein, sur le marché obligataire, on en a beaucoup parlé aussi. Ben, on va essayer de débrouiller les chevaux avec Félix Baron du Club des investisseurs indépendants et Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Focus avec lui particulier aussi sur les enveloppes fiscales les plus avantageuses pour vos placements. Ce sera dans la boîte à outils. Un horizon complet autour des opportunités de marché. En ce moment, on aura l'œil de JP Morgan Asset Management tout à l'heure dans le placement à suivre avec Lilia Pétavin. On va essayer aussi de regarder ce qui se passe du côté des marchés émergents et quel est le regard de JP Morgan sur cette zone particulière d'investissement. Enfin, investir dans les bijoux comme on investirait sur un actif financier, donc avec des considérations de dynamique, de rendement, de revente, etc., de liquidité aussi. Et on va en parler, c'est peut-être une optique intéressante avec les spécialistes de Christie's. Ce sera en fin d'émission, naturellement dans le coffre-fort. Vous pouvez nous joindre par email direct à bfmbusiness.fr, nous envoyer un SMS au 732-16, vous posez votre question, vous tapez le mot-clé business juste avant, suivi de votre message. Et puis vous pouvez me joindre directement sur les comptes Twitter et LinkedIn. Le reste de l'actualité du jour. À la une, ce regain de tension, bien sûr. Depuis 24 heures dans le Golfe, les États-Unis et l'Iran ont tous deux mené des opérations militaires, notamment dans le détroit d'Ormuz, que les Américains tentent de libérer. Deux navires, dont un de l'armateur danois Maersk, ont pu passer sous escorte hier, mais un autre, sud-coréen, a été endommagé par des tirs iraniens. Téhéran, qui a aussi de nouveau ciblé les pays du Golfe, et notamment le site pétrolier de Fujairah aux Émirats Arabes Unis. Donald Trump revendique en face la destruction de 7 embarcations iraniennes et assure dans sa dernière déclaration que tout se passe très bien. Sur le front commercial, une première rencontre entre Américains et Européens à suivre aujourd'hui, depuis les dernières menaces de Donald Trump sur le secteur automobile des 27. C'est le commissaire européen Sefcovic qui discutera avec son homologue américain Jamison Green à Paris en marge du G7 commerce. Hier, le chancelier allemand Friedrich Merz a demandé une application rapide de l'accord passé avec Washington pour éviter toute nouvelle escalade tarifaire. Enfin, adoption imminente pour le projet de loi sur la fraude fiscale et sociale. Il sera en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, 1,5 milliard d'euros d'économies sont espérés, n'est que cette année par le gouvernement avec ce texte qui tend à donner de nouveaux outils à l'URSSAF dans la fraude aux cotisations via le travail dissimulé. Tout de suite, au tableau de bord de vos marchés.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Retour de balancier sur les marchés financiers, un CAC 40 qui est en hausse ce matin, plus 0,56% à 8022 points. Mais alors, il y a quelque chose qui reste constant par rapport à hier, c'est la surperformance marquée de la tech européenne. Encore une fois, on a un Euronext Tech Leaders qui surperforme largement, plus 0,94%. À côté de ça, bon, on a l'Eurostock 50 qui gagne 1%, tout comme le DAX à Francfort. Même chose du côté de l'IBEX à Madrid. Donc, ce qui pèse sur le CAC 40 aujourd'hui, à noter Renault, qui recule de 0,68% à 29,35€. On a Capgemini, moins 0,52€ à 105,55€. Et Danone, moins 0,55% à 64,84€. Il y a des ajustements techniques aussi et des échéances de coupons, de versements de dividendes qui peuvent éventuellement expliquer tout ça. On a Orange qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à plus 2,6%, 18,15€. Schneider Electric, plus 2,5€, 266,05€. Et Bureau Veritas, plus 2,04€, 26,55€. Donc des valeurs plutôt traditionnelles, plutôt des valeurs de rendement. À noter, de ce côté-là, les valeurs du contracting du BTP qui sont bien orientées aussi. Vinci plus 1,87, 128, 15. Eiffage plus 1,86, 136, 95. Et Bouygues plus 1,6, 50,22 €. À la baisse, alors ça, c'est une constante par rapport à la tendance d'hier. Il y a aussi un recul assez marqué de tout le secteur de la santé. Valneva, moins 2,5% à 2,20 €. On a aussi d'autres valeurs du secteur qui sont assez mal orientées. Biomérieux, moins 0,6% à 70,30 €. On sent qu'il y a des dégagements un petit peu notables sur l'ensemble de ces valeurs. Malgré tout, c'est quand même Abivax qui signe la plus forte hausse du SBF 120 à plus 4,6%, 104,70 €. Un mot de l'obligataire. Les taux se détendent un petit peu. On sait que ça a été l'accélération de cette hausse dans l'obligataire qui a provoqué cette forte baisse des marchés actions hier, notamment en fin de séance. Là, ça se détend un petit peu, 3,73 € pour la dette française 10 ans, 3,06 € pour la dette 10 ans allemande et 4,43 € pour le 10 ans américain. À noter qu'on a passé le cap fatidique des 5% sur le 30 ans hier en séance. Enfin, le pétrole, ça se détend un petit peu aussi. Est-ce qu'on peut vraiment parler de détente? 112 $ quand même pour le Brent de mer du Nord et 103 € pour le brut léger américain. Tout de suite, on déchiffre l'actualité du jour.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Avec Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Bonjour Christian.
Bonjour Antoine.
Félix Baron du club des investisseurs indépendants. Bonjour Félix.
Alors, bonjour Antoine.
C'est vrai que c'est une de nos grandes thématiques là, ces dernières séances. C'est de l'air. On va regarder du côté des pays émergents.
Bien sûr.
Mais on a l'impression, et énormément d'analystes, d'investisseurs et de gérants qui s'occupent des marchés émergents nous le disent, on est un peu face au syndrome Magnificent Seven. On regarde des émergents qui sont de plus en plus concentrés sur certaines zones, certains indices et notamment certaines valeurs. Le cas le plus emblématique, c'est du côté de la bourse de Séoul, où voilà, on a une valeur qui semble faire la tendance. Bon, il y a quand même un éléphant dans la pièce qui s'appelle Samsung, mais voilà, au-delà de ça, il y a aussi la formidable histoire d'SK Hynix, le spécialiste des mémoires vives. Donc voilà, on a un paysage à la fois porteur, mais qui se retrouve avec les mêmes problèmes que nos valeurs traditionnelles, c'est-à-dire qu'on est concentré sur un certain nombre de points précis, en fait.
Tant que la demande pour la tech et pour l'IA continue, tout va bien. Ce qui est intéressant, c'est que je vais parler de deux places boursières, Taïwan et la Corée, c'est devenu deux baromètres, ou un seul baromètre, de la croyance des investisseurs mondiaux dans l'intelligence artificielle. Depuis le début de l'année, l'indice Kospi, à Séoul et l'indice TAIEX à Taïwan, c'est plus 61% et plus 39% respectivement. Vous le comparez avec le SP500 ou le Nasdaq qui sont à 5 et 8%. Donc clairement, on ne joue pas dans la même cour. Et aujourd'hui, Taïwan et la Corée sont devenus le troisième et le quatrième marché boursier mondial en termes de capitalisation. Il y a les États-Unis à 73 000 milliards de dollars, on ne va pas les chercher. La Chine à 11 000 milliards, on peut comprendre, ils sont beaucoup. Mais derrière, vous avez Taïwan, 4,5 milliards. Vous avez ensuite la Corée du Sud. En dessous, l'Inde, et je ne parle pas de la France et du Canada, de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. Qui sont
on est très loin. Ouais, de plus en plus.
Donc, c'est des places boursières qui ont changé de dimension grâce à l'IA, grâce à la tech. On peut le comprendre parce que ces économies, c'est vraiment des marchés équipementiers qui couvrent le hardware, donc le haut de la chaîne de valeur, vraiment l'amont, avec la mémoire et la pénurie qu'on connaît, les semi-conducteurs, c'est par la pénurie qu'on connaît, les serveurs de data center, des substrats, de l'infrastructure électrique. Mais attention, comme vous l'avez dit Antoine, ce sont quelques géants qui tirent tout l'ensemble.
Ouais.
Vous regardez Samsung plus SK Hynix, comme vous l'avez dit, c'est 42% de l'indice Kospi. C'est plus fort que notre concentration du luxe dans le CAC 40.
Ah,
donc vous avez deux boîtes qui font 42% de l'indice. À Taïwan, TSMC, donc on le sait, elle fait les puces pour Nvidia, pour Apple, AMD, Broadcom, c'est 45% de l'indice TAIEX. Vous avez, si on rajoute Delta Electronics et Foxconn, vous avez les trois boîtes qui font la bourse de Taïwan. Donc, c'est pas les bourses taïwanaises et coréennes qui battent des records, c'est trois entreprises de l'IA qui battent des records grâce à un marché de pénurie. Donc, on a aujourd'hui deux marchés boursiers qui sont deux marchés, attention, à effet de levier sur l'IA. Effet de levier qui s'explique sur deux piliers, je vous l'ai dit, la pénurie de mémoire d'un côté, donc c'est ce qui pousse à la hausse SK Hynix par exemple et Samsung Electronics en Corée, et des puces, puisque je vous rappelle que c'est pas Nvidia qui fait les puces, Nvidia elle fait les systèmes, mais les puces et les semi-conducteurs sont faits par TSMC à Taïwan. Donc un marché effet de levier, c'est très puissant. Hein. On parlait de SK Hynix sur ce plateau en décembre, c'est plus 161% l'action depuis le mois de décembre. Mais si c'est à effet de levier, c'est donc que c'est aussi risqué, très risqué, parce que si vous achetez la bourse taïwanaise aujourd'hui ou la bourse coréenne, vous avez zéro diversification. Les indices, souvent composites, donnent une impression de solidité, une impression de diversification. Ça peut être vrai pour le SP500, ça peut être vrai pour le CAC40. Mais à Taïwan et en Corée, en fait, tous les œufs sont dans le même panier. Donc, tant qu'on dépense pour l'IA, ça va. Tant que vous avez des hyperscalers, donc des Microsoft, des Oracle, des Amazon, des Meta, etc., Google, qui continuent d'investir dans les data centers, c'est bon. Parce que globalement, si vous investissez dans les data centers, ça veut dire que vous allez acheter des composants de serveurs, des substrats, des semi-conducteurs, de la mémoire. Donc c'est pour ça que si vous voulez continuer à investir sur ces marchés taïwanais, coréens, pourquoi pas, mais surveillez donc, pour moi, les rapports trimestriels des hyperscalers, tant qu'ils annoncent qu'ils vont faire des capex sur les data centers.
Et c'est le cas en ce moment.
Et c'est le cas. Ouais. Mais il y a aussi des risques. Parce que si Nvidia, ça pourrait arriver un jour peut-être, commence à décevoir sur ses commandes, on ne sait pas, ça peut arriver. Mais surtout si le prix de la mémoire, la fameuse HBM se retourne. Parce qu'aujourd'hui, le prix de la mémoire qui fait monter Micron Technologies ou SK Hynix, il est lié à un marché de pénurie.
Et on se souvient qu'il y a une dizaine d'années, on avait eu un crack sur le prix des
mémoires. Bien sûr, mais le prix de la mémoire, c'est comme une commodity aujourd'hui.
Voilà, c'est ça.
Ça pourrait être pareil sur la tonne de fret. C'est juste, ça dépend d'un marché qui en ce moment est en pénurie. Et surtout, s'il y a un risque géopolitique qui d'un coup remonte très fort à Taïwan, qui, on le sait, n'a pas des relations de velours avec la Chine. Là, attention, parce que ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir une remise en question tout en haut de la chaîne de valeur, avec un doute et des questions qui redescendent tout en aval, avec des questions, par exemple, est-ce qu'en fait, on a bien anticipé la demande en IA ? Est-ce que la chaîne des semi-conducteurs, elle n'est pas trop chère ? Est-ce que les valos ne sont pas trop élevés ? Parce que là, je vous ressors le Buffett Indicator. Donc, le Buffett Indicator, c'est capitalisation d'une place boursière sur le PIB. Les États-Unis, c'est 213%. Voilà, la bourse voit à peu près deux fois le PIB. Taïwan, c'est 458%. Donc là, oui, c'est trop cher. La Corée, c'est 209%. Parce que Samsung est beaucoup plus conglomérale. Et la France, 108%, c'est très raisonnable. Oui. Donc, s'il y a des inquiétudes, elles vont se transmettre. Elles vont se transmettre à Nvidia, elles vont se transmettre à Broadcom, à AMD, etc. En aval, donc, il faut vraiment surveiller ces marchés effets de levier qui peuvent être, encore une fois, très intéressants. Mais n'oublions pas qu'il y a un deuxième tranchant qui est plus risqué.
Mais on se souvient d'un tweet intéressant dont on avait parlé dans cette même émission, d'un investisseur saoudien assez connu qui tweete des choses pas mal et qui disait, en fait, vous croyez investir sur l'IA, vous investissez sur le risque taïwanais.
Oui, non, mais ça.
Et le point de vue était pas mal senti. Christian Fontaine, une petite réaction à tout ça.
Oui, les marchés émergents sont en fait repartis à la hausse depuis environ un an. On doit être quelque chose comme autour de 20%. Et depuis le début de l'année aussi, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Enfin, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un rebond technique, un rattrapage, j'oserais dire, ou un véritable réveil ? Et je pense qu'il est quand même un peu trop tôt pour parier sur un réveil durable. Il me semble, en tout cas, que pour l'instant, les marchés émergents doivent rester un marché de diversification, un investissement de diversification à hauteur de 5 ou 10% pas plus. En fait, si on prend un tout petit peu de recul, les marchés émergents ont connu une heure de gloire il y a une vingtaine d'années, avec des progressions très spectaculaires à deux chiffres. Et puis ensuite, depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, les marchés occidentaux ont largement surperformé les marchés émergents, et ça fait quand même une quinzaine d'années que ça dure. Avec des deltas de variation très, très significatifs. En fait, aujourd'hui, on est dans des marchés, depuis des années, dans des marchés de liquidité et pas dans des marchés de fondamentaux. Et donc, les marchés qui progressent, c'est les marchés qui attirent les capitaux et typiquement, c'est les marchés américains depuis des années. Est-ce que on va assister, vous savez, à un phénomène de vase communicant. On y croit pas mal souvent en matière de gestion. Après les États-Unis, est-ce que c'est la zone asiatique ? Il y a quelques années, les gérants vous disaient, mais aujourd'hui, peut-être que les marchés américains doivent peser 40 ou 50% d'un portefeuille. Mais moi, je suis prêt à prendre le pari que dans 5 ans ou 10 ans, il faudrait être investi à hauteur de 40 ou 50% sur les places asiatiques. Je pense que pour l'instant, c'est jamais arrivé. Ouais. Je pense qu'il faut éviter. Enfin, pour l'instant, les marchés émergents n'ont pas encore véritablement prouvé que sur le long terme, ils pouvaient devenir une classe d'actifs aussi solide que les actions des pays occidentaux, les actions européennes ou les actions américaines. Donc oui, aux marchés émergents, mais je dirais on reste quand même dans une proportion de 5 à 10% du portefeuille. Ouais. Et on reste diversifié. Alors, Félix citait des titres en direct. Nous, pour le au revenu, pour ce type de classe d'actifs, on reste quand même assez fidèle aux ETF. Il y en a des très bons avec qui prennent 0,2-0,3% de frais de gestion. Et c'est vrai qu'il n'est pas forcément très facile de savoir la distance n'aidant pas sur quel support investir à Taïwan ou en Corée.
C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'on se retrouve avec ce fameux phénomène de concentration, encore plus si on prend des ETF, parce que là, pour le coup, on est un peu sur la moyenne pondérée de tout, qui est très disparate, mais au milieu duquel il y a 2-3 éléphants dans la pièce. Est-ce que vous pensez que ça peut être un risque aussi, Félix Baron ?
Non, parce que dans tous les cas, c'est une moyenne pondérée, c'est une moyenne surpondérée. Globalement,
si vous
investissez sur un indice, donc via un ETF sur ces marchés-là, Taïwan ou Corée, bah, ça revient à investir à 2/3 ou même peut-être un peu plus sur Samsung, SK Hynix en pondération en Corée et sur TSMC et donc Delta Electronics et Foxconn, avec un peu de diversification, parce que Delta Electronics, ça fait du refroidissement de serveurs, Foxconn, des iPhones, mais pas que, des composants aussi pour smartphones, pour la chaîne mondiale. Moi, j'ai une passion pour le stock picking. La version ETF, elle se défend aussi quand on n'est pas tous les jours derrière son écran à aller choisir les entreprises.
Et Antoine, l'argument que vous mettez en avant, c'est un argument qui est mis en avant par les détracteurs des ETF. Mais ceci dit, un ETF, c'est quand même par définition excessivement diversifié. Alors, peut-être que l'ETF MSCI Emerging Market est un peu moins diversifié qu'il ne l'était il y a 6 mois ou il y a 1 an. Il n'empêche que vous investissez quand même dans des centaines de valeurs. Donc, ça reste, je dirais, un excellent outil diversifié pour investir sur ce type de marché. Et encore une fois, on n'hésite pas, puisque Félix parlait des valos tout à l'heure, notamment sur certains marchés asiatiques, on n'hésite pas, on met de la DCA en place, donc l'investissement progressif sur ce type de marché comme sur les autres.
Une fois qu'on est bien réparti, c'est sûr. Du côté de la volatilité de marché, c'est vrai que bon, ça baisse, ça monte. Là, en ce moment, on a quand même des indices qui sont un peu paumés, notamment en Europe. On voit que ça résiste un petit peu mieux du côté des États-Unis et on voit qu'il y a une grosse volatilité sur les taux obligataires là, en ce moment. La question reste la même. Comment on se protège alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer?
Alors, vous parliez de volatilité boursière. Moi, j'aurais tendance à dire, même au-dessus de il y a la volatilité de l'information, tout simplement. Enfin, jour, la guerre est finie ou sur le voie d'être finie au Moyen-Orient. Le lendemain, donc, Donald Trump affirme et menace l'Iran de déverser des milliers de bombes. D'un jour, le pétrole est à 115-110 dollars le baril. Le lendemain, on est plutôt autour de 90. Donc, comment voulez-vous baser, je dirais, une stratégie d'investissement cohérente en se basant sur ce type d'informations? Je pense qu'en période de crise comme aujourd'hui, il faut l'erreur à ne pas commettre, c'est de surréagir et d'essayer de se repositionner à chaque fois qu'il y a une nouvelle information qui risque de toute façon d'être contredite dans les 24 heures qui suivent. C'est pour ça que surtout il faut éviter toute surréaction. Alors, pour répondre à votre question, comment protège. Il y a eu les fameuses communications de Berkshire Hathaway sur les résultats du premier trimestre où ils ont rappelé qu'ils détenaient près de 400 milliards de cash. Donc on rappelle que la capitalisation boursière de Berkshire Hathaway, c'est pas le montant total des positions, mais est autour de 1000 milliards. Donc ça donne quand même un peu une idée du cash. Au revenu, oui, on recommande de détenir un petit peu de cash. Dans notre portefeuille prudent, on est autour de 20%. Dans notre portefeuille équilibré, on est à 15% de liquidité. Donc oui, bien sûr, on se protège. Il faut avoir du cash. Mais aussi, bien sûr, les valeurs refuges, quoique Là-dessus aussi, il y en a deux sur, que je mettais souvent en avant sur votre antenne. C'est bien sûr le secteur de la défense et le secteur du pétrole. J'aurais quand même tendance à considérer qu'aujourd'hui, compte tenu la valorisation du secteur de la défense et compte tenu de l'évolution, par exemple, du cours de certaines pétrolières Total en tête, c'est plutôt pas un mauvais moment pour commencer à prendre ses bénéfices. Vous avez bien vu, en tout cas, un bénéfice partiel. Vous avez bien vu, par exemple, que Thales a mal réagi aux résultats du premier trimestre qui étaient plutôt quand même de très, très bonnes factures.
Rheinmetall, hein, ce matin, forte baisse. Hein, aussi.
Sur Total, depuis le début de l'année, de mémoire, en tout cas, il y a quelques jours, c'était encore la plus forte progression du CAC 40. On doit être entre 40 et 50% de hausse. Donc, petite prise de bénéfice, à mon avis, ça me semble intéressant. Alors, la dernière fois que j'étais venu sur votre antenne, on avait beaucoup parlé éventuellement des opportunités, des bons coups à réaliser. En fait, il faut bien voir que, autant le marché avait perdu, le CAC 40 avait perdu quelques 8% au mois de mars, c'était l'un des pires mois boursier depuis 5-6 ans, eh ben, autant le marché a déjà rebondi bien en avril puisqu'on on frôle les 4% de hausse. Donc c'est vrai qu'il y a il y avait un mois, il y avait des tas de valeurs du CAC 40 qui avaient baissé de quasiment 20%. Vous citiez tout à l'heure Vinci, on aurait pu rajouter BNP. Aujourd'hui, il y a moins de valeurs, il y a encore Safran qui a baissé de plus de 20% par rapport à ses sommets. Donc j'aurais tendance à dire aujourd'hui, alors peut-être un petit peu de Safran, peut-être un petit peu de SEB. Vous avez bien vu que une valeur qui est moins suivie qu'auparavant, qui a connu un parcours très difficile l'année dernière, mais qui commence maintenant à se stabiliser dans la zone des 45 à 50 dollars. Pourquoi pas en mettre une petite ligne portefeuille, je dirais, mais surtout, en période de crise, et même si ce n'est pas très vendeur pour une émission qui s'intéresse à la bourse ou au placement, attention à ne pas surréagir. Souvent, la meilleure réaction en période de crise, c'est de ne pas réagir, justement pour éviter la fameuse porte de saloon, c'est-à-dire de prendre la baisse et de ne pas prendre la hausse qui suit.
Exactement. Quand on se met trop à l'abri, se met à l'abri aussi des reprises des marchés qui sont là en ce moment nécessairement violentes vu qu'on est sur des plus hauts, on continue à progresser. Donc si on se protège trop, on finit par plus rien gagner.
Si on s'agite trop, surtout, je regardais, on est le 5 mai, depuis le début de l'année, je n'ai pas acheté une seule action. Je n'ai acheté qu'un seul actif, c'est de l'or. J'ai acheté de l'or régulièrement, j'achète toujours en DCA, je ne m'en cache pas. Parce que, après, c'est comment se protéger de la volatilité. Si vous avez de l'infrastructure, quelle que soit son exposition, infrastructure portuaire, infrastructure aéroportuaire, infrastructure énergétique, infrastructure de l'IA, vous êtes protégé. Si vous avez un peu d'immobilier coté, vous êtes protégé. Si vous avez de l'or et du pétrole, ou en tout cas de l'énergie, vous êtes globalement protégé. Et le reste, vous pouvez, avec le reste, j'allais dire jouer, vous pouvez placer sur d'autres titres vifs. Mais attention à une chose cependant, si vous vendez des titres, si vous récupérez du cash, le cash que vous allez avoir maintenant perdra nécessairement de la valeur par rapport à la fin de l'année. Parce que l'inflation est en train de repartir avec les prix de l'énergie. Hein. Choc d'offres, en plus sur l'énergie, c'est la pire inflation, parce qu'il n'y a pas de valeur qui progresse en face. Donc attention à ne pas avoir trop de cash en se disant « j'ai ça dans un bas de laine, une poire pour la soif ». Bah, malheureusement, 10 000 euros du début de l'année ne seront plus 10 000 euros à la fin.
Ouais, franchement, si on cherche à trop se protéger, on finit par être contre-productif.
Il y a une seule question à se poser, en fait. Est-ce que votre exposition au risque action est, je dirais, compatible avec votre profil d'investisseur? Alors, dit comme ça, ça fait un peu théoricien, mais, très concrètement, si vous pouvez vous permettre de rester investi et vous savez que l'argent que vous avez en bourse, que vous détenez en bourse, vous savez que vous n'en aurez pas besoin au cours des 3 ou 4 prochaines années, restez investi. Si maintenant vous avez une grosse dépense à venir et que vous comptez sur vos actions pour la financer, il ne faut pas hésiter à prendre en partie vos bénéfices.
Et puis, avec les bonnes enveloppes fiscales, mais ça, on va y revenir dans la boîte à outils avec vous, Christian Fontaine, vous nous faites l'amitié de rester. On en parlera dans quelques minutes. Avant de vous quitter, Félix Baron, Club des investisseurs indépendants, grosse question depuis des semaines, des mois sur les marchés actions. Est-ce que l'IA va détruire ou construire de la valeur petit bouquin là qui sort dans pas très longtemps, intéressant, qui s'appelle « L'IA s'enrichir ou disparaître ».
Très bon bouquin, puisque c'est moi qui l'ai écrit.
Je crois que tout est dit, en vrai.
Ouais, le titre est radical, mais le sujet ne l'est pas moins. Ne l'est pas moins. Les opportunités ne le sont pas moins. Et ce que je propose en 10 chapitres et en un peu moins de 200 pages, c'est de faire comme Warren Buffett, comprendre dans quoi on peut investir. Ouais. Si vous comprenez d'où ça vient, comment ça marche, vous allez mieux comprendre les piliers qui portent la révolution, que c'est pas juste un sujet d'algorithme et de logiciel, et que vous allez pouvoir vous construire peut-être un portefeuille entre guillemets permanent, quatre saisons, sur la technologie et tout l'écosystème autour de l'IA. Et c'est vraiment dans ce but-là que j'ai construit ce petit bouquin qui sera très rapidement disponible sur, vous pourrez trouver très rapidement, Félix Baron Livre IA sur Internet. Vous trouverez, et c'est aux éditions Panthéon Recherche.
Ouais, l'IA, s'enrichir ou disparaître. Merci Félix Baron, Club des investisseurs indépendants. Et on passe tout de suite aux arbitrages.
Tout pour investir. Arbitrage.
Et nous retrouvons Alexandre Baradez d'IG. Bonjour Alex.
Bonjour Antoine.
Bon, un CAC 40 qui sait globalement pas où il va. On parvient à sauver les 8000 points. Plus 0,61% ce matin après une baisse assez marquée hier, puis sur de gros volumes. On a l'impression qu'on ne sait pas où on va, mais qu'on a des points d'équilibre un petit peu partout. Du côté des marchés américains, de plus en plus du côté des marchés européens, on arrive à identifier des supports et ça nous protège pour le moment, on a l'impression.
Oui, c'est assez stable en Europe, mais stable dans une zone un peu molle, on va dire. Et on voit qu'il y a cette différence phénoménale en fait, de comportement qu'il y a eu, en tout cas, ces dernières semaines, entre les marchés américains, surtout tirés par la tech, et puis une Europe plus diversifiée, moins sensible à la technologie, et puis surtout une Europe plus sensible à la question énergétique. On est beaucoup plus dépendant de nos importations d'énergie que les États-Unis. On a eu toutes ces révisions à la baisse, des croissances en Allemagne, des chiffres de performance pour la croissance européenne au T1, qui est assez moyenne pour la France notamment. Donc on voit que les marchés intègrent ça, en fait, intègrent ce risque économique lié à une situation géopolitique qui s'encroûte. Et on a vu hier, encore une fois, alors c'est pas une reprise flagrante des affrontements et autres, mais c'est une situation qui est sclérosée, dont on voit pas le bout pour l'instant. Hier soir, Donald Trump parlait encore de potentiel 2 à 3 semaines nécessaires pour voir la fin de ce conflit. Il nous disait la même chose il y a à peu près 4 ou 5 semaines. Donc c'est ça, l'Europe l'intègre bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez frappant, en fait. Assez frappant, c'est qu'on comprend pourquoi les marchés américains, historiquement et encore ces derniers mois, ont mieux performé. On a des croissances bénéficiaires, il faut le rappeler, parce que c'est ça qui est le moteur des marchés. Croissance bénéficiaire supérieure à 20% au premier trimestre aux États-Unis. Et les analystes estiment que ce sera encore le cas, plus de 20% pour le deuxième trimestre.
Et là-dessus, la high-tech américaine a été... incroyable.
Oui. Ce que je voulais toucher du doigt, c'est qu'en Europe, effectivement, nos croissances bénéficiaires, elles sont inférieures quasiment à 5%. Grosso modo, c'est entre 3 et 5% de croissance bénéficiaire. Donc, on a des entreprises américaines qui, en croissance bénéficiaire, affichent des performances 4 à 5 fois supérieures à l'Europe. Donc, on peut comprendre que ce soit plus calme en Europe et plus dynamique aux États-Unis. Là où, en revanche, je mets un petit bémol sur la partie américaine, c'est que malgré ce conflit qui dure, malgré ce pétrole qui reste au-delà de $100 aux États-Unis, malgré... Et on le voit aussi, des consommateurs américains, alors on peut dire, oui, mais ils ont quand même consommé au premier trimestre 1,6% de croissance quand on voit les chiffres du PIB. Sauf que, effectivement, vous faites la bonne tête, c'est-à-dire, c'est pas énorme pour une croissance américaine annualisée en plus, donc en termes de consommation, sachant en plus qu'au premier trimestre, aux États-Unis, c'est là où les Américains ont reçu leur fameux remboursement d'impôts, qui cette fois-ci était plus élevé que les années précédentes.
Et puis on le voit sur les indicateurs de confiance, ça à plusieurs mois, c'est cata. C'est vraiment pas bon.
Alors, ils consomment quand même un peu, c'est pas donc qu'ils sont pas en contre de consommation.
Plus le sentiment qui...
Voilà, c'est le sentiment, mais et là où moi j'ai quelque chose qui j'ai du mal à projeter dans les mois qui viennent, c'est que les analystes à Wall Street continuent de considérer que les croissances bénéficiaires vont être là au T2 ou T3, comme si tout ce que nous voyons au Moyen-Orient n'aurait aucune empreinte sur l'économie américaine. Et c'est là que je suis un peu plus réservé. Est-ce qu'effectivement, et c'est là après qu'on parle des multiples de valorisation, est-ce qu'on n'est pas un peu trop en avance dans les anticipations pour le T2 et le T3 du côté des analystes de Wall Street? Parce que pour l'instant, cette guerre n'est pas encore soldée, parce que les effets inflationnistes sont là, parce que les banques centrales ne parlent plus, notamment côté Fed, éventuellement de rebaisser les taux, on est beaucoup plus à l'équilibre. Est-ce qu'on doit les relever ou les baisser? On ne parle pas des relevés pour l'instant, mais le discours est quand même beaucoup plus symétrique depuis quelques semaines au niveau de la Fed.
Et alors, il y a un actif, il nous reste une minute pour en parler. Sur le marché obligataire, il y a quand même des cotes d'alerte. Il y a Gilles Mouek d'AXA, je le dis souvent, qui, il y a 2 semaines, nous disait « Non, franchement, que le 10 ans allemand soit au-dessus de 3%, ça me chagrine. » Il le disait comme ça. Ouais. Et là, on a le 30 ans américain qui est au-delà des 5%. Ouais. Partout, on a des petites cotes d'alerte qui commencent vraiment à apparaître.
Et oui, et pourquoi ces taux sont si élevés? Parce qu'effectivement, il y a les effets liés à la hausse du pétrole sur l'inflation. On voit que l'inflation est un peu repartie en Europe. Alors, je ne crois pas encore une fois du tout au scénario post-Covid, une inflation galopante ou autre. Ça, non. Mais le scénario, effectivement, non plus la stagflation, ce n'est pas le scénario que j'ai en tête, mais qui s'en rapproche un peu. Croissance assez molle, inflation assez forte, qui fait que les banques centrales ne vont pas relever les taux comme des folles, mais peut-être une hausse quand même à l'horizon pour la BCE et la Fed, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire, mais n'arrive pas en tout cas à les baisser pour l'instant. Ouais. Donc ça veut dire qu'effectivement, vous avez des coûts d'emprunt pour les pays qui restent élevés, vous avez des coûts de crédit également, il faut bien penser à ça. Aux États-Unis, quand vous parlez effectivement d'un taux qui est proche de 5 ans, ben, amusez-vous à regarder chez vous sur le graphique à quoi ressemblent les taux de crédit aux États-Unis hypothécaires à 30 ans par rapport au taux long américain. C'est copier-coller. Ouais, ça suit parfaitement et ça réagit au jour le jour. Donc tous ces coûts de crédit aux États-Unis, ces taux qui restent élevés, ces taux longs qui restent élevés, ben, ça renchérit les coûts du crédit aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'hier Trump, on l'a entendu dans son intervention, a dit les taux sont trop élevés aux États-Unis, faisant référence à la Fed. Mais ils sont trop élevés parce qu'effectivement, derrière, l'inflation est toujours proche de 3%. Donc la Fed n'a pas les bases aujourd'hui et je ne crois pas au miracle de Kevin Walsh, en fait. Hein, je n'y crois pas. Il ne pourra pas baisser les taux dès son arrivée à la tête de la Fed. Tant que les signaux inflationnistes restent ceux qu'ils sont aux États-Unis sur l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire proche de 3%.
4,43% pour le 10 ans américain, donc 3,07% pour le 10 ans allemand, 3,73% pour nous. Ça commence à piquer aussi. Merci beaucoup Alexandre Barthez d'IG. Et dans quelques secondes, on va retrouver Christian Fontaine. On va parler des enveloppes d'investissement. Quelles sont les plus avantageuses du moment par rapport à votre profil d'investisseur? On en parle là. Dans deux minutes, on ouvre la boîte à outils. À tout de suite.
Tout pour investir. La boîte à outils.
Et on ouvre la boîte à outils avec Christian Fontaine du magazine Le Revenu. On a regardé un petit peu quelles étaient les opportunités sur les marchés émergents, notamment là, pendant le déchiffrage et sur les protections contre la volatilité, l'attitude à adopter, les curseurs à pousser là dans ce marché peut-être un petit peu turbulent. Au-dessus de tout ça, quand on est épargnant, quand on est investisseur, il y a un enjeu qui est le régime fiscal sur lequel on investit, les enveloppes fiscales. Alors, est-ce qu'on peut peut-être faire le point, là, en ce début mai, sur les différentes opportunités qu'il y a en fonction de votre profil d'investisseur, bien sûr?
Bien sûr, la fiscalité, c'est aussi d'époque avec la déclaration de revenus et le message.
Faire une spéciale, hein, à suivre.
Le message qu'il faut faire passer auprès des auditeurs et des auditrices, c'est qu'en fait, en matière de fiscalité, il n'y a pas de fatalité. Et donc, il est surtout en période, je dirais, particulièrement volatile sur les marchés financiers, intéressant d'actionner un autre levier de la rentabilité d'un portefeuille boursier. Hein. Il y a le levier, bien sûr, de la performance intrinsèque, les dividendes, les plus-values, et vous avez un levier sur les frais et vous avez un levier sur la fiscalité. Alors, comme on est en France, la fiscalité des placements, la fiscalité de vos des titres que vous détenez, des fonds d'investissement ou des ETF, c'est jamais très très simple. La mécanique, en fait, c'est que vous avez le choix de ce qu'on appelle des enveloppes fiscales. En fait, vous avez la possibilité de vous placer dans le cadre fiscal, dans différents cadres fiscaux. Le meilleur cadre fiscal en France pour investir en bourse, c'est le PEA, le plan d'épargne en action, qui vous permet de limiter à 18,6% les prélèvements, l'ensemble des prélèvements sur vos opérations boursières. C'était 17,2 et maintenant c'est 18,6 de mémoire, après 5 ans de détention. Donc contre 31,4% si vous détenez vos titres dans le cadre d'un compte-titres ordinaire. Donc si vous investissez en bourse et si vous n'avez pas encore de PEA, n'hésitez pas à ouvrir un plan d'épargne en action. Hein. Il faut, lorsqu'on investit en bourse, choisir un intermédiaire et choisir ensuite un régime fiscal au sein duquel on se positionne. Le compte-titres ordinaire, alors ça, c'est une enveloppe qui existe depuis la nuit des temps dans tous les pays dans tous les pays européens et à l'étranger.
Et on en a parlé il y a quelques semaines. Hein. Il retrouve des couleurs en ce moment.
Alors, il retrouve des couleurs. Il a toujours eu des belles couleurs et il permet, en fait, notamment d'investir en actions internationales. Et il permet, mais on en discutera peut-être tout à l'heure aussi, d'effacer totalement les plus-values latentes lorsque vous donnez vos titres ou lorsqu'ils sont transmis par voie de succession. Mmh. L'autre enveloppe fiscale absolument indispensable, c'est bien sûr l'assurance vie.
Ouais.
Hein, et donc l'intérêt de l'assurance vie, c'est qu'il n'y a pas de plafond sur versement. Et puis l'intérêt de l'assurance vie, vous avez un intérêt en matière de transmission, et puis aussi parce que ça vous permet d'arbitrer en fait entre vos supports d'investissement sans passer par la case impôt, puisqu'en fait vous ne payez les éventuels impôts aux prélèvements sociaux qu'en cas de retrait. Donc c'est très intéressant. Et puis je terminerai cette petite présentation un peu livresque et un peu académique par deux enveloppes fiscales de niche. La première, c'est le PER. Vous en parlez souvent sur votre antenne, ouais. Et le revenu aussi. Si ouais. vous êtes taxé au moins à 30%, n'hésitez pas à investir en bourse par l'intermédiaire de cette enveloppe fiscale là, d'investissement fiscal de long terme, qui est destiné à vous doter d'un capital dans lequel vous puiserez le moment venu quand vous serez à la retraite. Et puis, vous avez l'épargne salariale. Alors, l'épargne salariale, notamment le plan d'épargne retraite ou le PERCOL, le plan d'épargne retraite collectif, qui sont alimentés automatiquement par l'argent de l'intéressement, en fait, par votre intéressement ou votre participation aux résultats de l'entreprise, sachant que ces déversements volontaires sont possibles et ils sont souvent abondés par l'entreprise. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. C'est une enveloppe fiscale un peu complémentaire. Bon, il faut être salarié la plupart du temps dans un grand groupe, même si ça se démocratise aussi auprès, je dirais, des PME et des ETI. Donc vous voyez, en fait, des enveloppes qui se complètent, en fait, plus qu'elles ne s'opposent. L'idéal, c'est d'avoir toutes ces enveloppes pour une raison très simple. Et là, je vous donne un scoop, parce qu'on ne sait absolument pas comment va évoluer la fiscalité.
Bien sûr.
C'est souvent dans le mauvais sens, mais on ne sait pas quelle enveloppe fiscale. Vous voyez, par exemple, on a parlé d'assurance vie tout à l'heure. La dernière grosse actu au niveau fiscal, c'est la hausse des prélèvements sociaux sur les placements. Oui, mais certains placements y ont échappé, notamment l'assurance vie.
Donc, si vous avez un peu de tout, vous pourrez arbitrer. Et c'est ça qui compte. L'épargne salariale, on n'en parle pas assez souvent. Nous, on en parle. Il y a encore quelques semaines, on faisait un peu le point dessus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut activer, nettoyer, observer. Et beaucoup de gens l'oublient, leur épargne salariale.
Et cette saison, puisqu'on fait de l'intéressement à la participation au résultat de l'année précédente, donc 2025, est versé en ce moment par les entreprises. Donc c'est là où les salariés concernés, ils sont quand même plus de 10 millions, ont une question à se poser. Est-ce qu'ils épargnent ou est-ce qu'ils consomment cet argent avec toutes les conséquences fiscales que ça a? Mais on en reparlera.
Alors, les éventuels pièges ou limites du choix quand on doit opter pour différentes enveloppes fiscales?
Oui, vous prononcez le bon mot. Le piège, c'est-à-dire qu'en fait, le législateur accorde rarement des avantages fiscaux sans contrainte ou sans limite. On parlait tout à l'heure du PEA. C'est vrai que le versement sur le PEA est limité autour de 150 000 euros, c'est quand même déjà une somme significative. Surtout, le PEA, c'est fait pour investir en actions européennes, même s'il existe des supports un peu complexes qui permettent d'investir dans des actions émergentes ou des pays ou des États-Unis. Ça, c'est un peu la limite. La limite du compte titre ordinaire, eh bien, à chaque fois que vous encaissez 1 euro de dividende ou à chaque fois que vous vendez une action avec 1 euro de plus-value, vous passez par la case impôts et prélèvements sociaux. Donc ça, vous ne maîtrisez absolument pas votre fiscalité. Il faut le savoir, ce qui fait que c'est souvent, il est utilisé, on recommande en tout cas aux revenus d'utiliser le compte titre ordinaire pour des supports de capitalisation qui ne distribuent pas de revenus, qui les capitalisent. Et comme ça, votre badlaine progresse sans passer par la case impôt. Parler d'assurance-vie tout à l'heure, on va pas le talon d'Achille de l'assurance-vie, vous en parlez souvent sur votre antenne, c'est les frais, il faut être vigilant, frais d'entrée, frais de gestion, frais d'arbitrage. Le PER, le PER, c'est un placement tunnel, donc votre argent est bloqué jusqu'à la retraite. Et puis le PEE, le PERCOL, bon, ça, c'est l'épargne salariale, et c'est vrai que les fonds accessibles ne sont pas forcément toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer, même si ça s'améliore. Donc c'est vrai que la fiscalité de vos placements, la fiscalité de vos investissements boursiers, c'est un sujet un peu complexe, mais il y a gros à gagner. Le jeu en vaut la chandelle, donc il faut accepter et il faut prendre le temps de se plonger, je dirais, dans le mode de fonctionnement de ces différentes enveloppes fiscales afin, en fonction de vos besoins, d'optimiser de votre fiscalité. Et encore une fois, tout le monde n'est pas obligé et il y a des moyens légaux pour échapper à la flat tax.
Et puis, on vous en parle à chaque fois dans la boîte à outils. Vous pouvez télécharger, replay, podcast. On en parle régulièrement. Christian Fontaine, juste un tout petit mot. Quand on pense démembrement, il y a peut-être un truc à rajouter dans la boîte à outils que vous nous montrez à l'instant.
Alors oui, tout à fait. Il y a un petit livre qui vient de sortir, petit par la taille, mais gros par les bénéfices que vous pouvez en tirer. Ça s'appelle « Les clés du démembrement de propriété ». Autant tout à l'heure, on parlait de l'IA, le démembrement de propriété en matière de gestion gestion de patrimoine, c'est vraiment un outil qui continue à bien fonctionner pour optimiser la transmission de vos biens et pour optimiser la fiscalité. Alors, c'est un peu complexe, c'est pour ça qu'il faut être informé aux meilleures sources. Et là, c'est un livre, Les clés de démembrement de propriété, ça vient de sortir, c'est chez Gualino et c'est Fabrice de Longevial, voilà, qui est l'un des meilleurs spécialistes en France de la matière. Donc, c'est un petit investissement qui peut rapporter table. Gros. Et pour dans votre fameuse boîte à outils, c'est l'un des derniers outils qui fonctionne encore bien, que vous soyez, je dirais, père de famille, chef d'entreprise, ça s'adapte, le démembrement de propriété s'adapte à tous les patrimoines et à toutes les situations patrimoniales.
Merci Christian Fontaine du magazine Le Revenu, on vous retrouve très vite pour des conseils très pratiques sur votre patrimoine. Tout de suite, le placement à suivre.
Tout pour investir, le placement à suivre.
Le placement à suivre est l'œil de JP Morgan. Nous recevons Lilia Pétavin. Bonjour de JP Morgan Asset Management.
Bonjour Antoine.
Content de vous revoir à nouveau. La question qu'on se pose, et on aimerait bien avoir votre point de vue, on parle d'une certaine forme de complaisance sur les marchés. On est dans une tornade géopolitique assez imprévisible. On a quand même des perspectives en matière d'inflation, en matière de croissance, qui ne donnent pas envie de vraiment sourire. Et plutôt de rester prudent. Malgré tout, voilà, on a des indices américains qui battent des records. On a un CAC 40 bon, qui se comporte pas si mal, même s'il y a un vrai écart de performance. Et voilà, en même temps, il y a les taux obligataires qui commencent à poser problème. Bref, on a un nœud d'inquiétude et pourtant les marchés marchent bien. Est-ce que vous pensez qu'on est encore avec une forme de complaisance ?
Non, pas réellement. C'est vrai, vous l'avez dit, l'ensemble des indices actions ont effacé les pertes qu'ils avaient subies après le début du conflit en Iran à la fin du mois de février. Le S&P bat des records toutes les semaines. Il est actuellement 5% au-dessus du niveau qu'il avait avant le début du conflit. Mais cela me semble plutôt rationnel pour trois raisons principales. Un, il ne faut pas oublier que les marchés actions sont différents de l'économie. Donc, la croissance économique ralentit. La France est un excellent exemple. Il n'y a pas eu de croissance économique en termes de croissance du PIB au premier trimestre. Et pendant que la croissance économique ralentit, nous voyons les anticipations de bénéfices du CAC 40 être révisées à la hausse. Parce que le poids du secteur de l'énergie est important. En Europe, le secteur de l'énergie a vu ses anticipations de bénéfices être révisées à la hausse de plus de 40% depuis le début du conflit. Donc, ça vient booster les profits d'indices actions tels que le FTSE 100 au Royaume-Uni ou tels que MSCI LATAM dans les marchés émergents. Par ailleurs, deuxième point, je pense que le risque d'avoir une récession structurelle, il est relativement ancré. Ce que j'entends par récession structurelle, c'est une récession telle que celle que l'on a connue en 2008, qui est le fruit d'une correction de déséquilibres fondamentaux qui se sont créés dans l'économie, notamment lorsqu'il y a de la dette et du levier. Ce risque-là, il est faible et les investisseurs le savent. Pourquoi est-ce qu'ils ont les yeux rivés là-dessus ? Parce qu'on sait que lorsqu'il y a une récession structurelle, c'est là que nous avons un marché baissier qui peut durer plusieurs années. Si ce n'est pas le cas, alors il y a des raisons de regarder au travers de la crise énergétique en ce moment.
Oui, c'est pas que le plat n'est pas bon, c'est que l'assaisonnement mérite une correction, en fait, on va dire.
Oui, et j'ajouterais aussi que le plus de chaos il y a dans le monde, le plus d'incertitudes géopolitiques et économiques, le plus on voit de la dépense gouvernementale, publique, parce que les États doivent répondre à la crise actuelle et aux risques géopolitiques grandissants en assurant leur sécurité technologique, énergétique, militaire. Donc c'est une chose qui vient probablement limiter la correction et raccourcir la durée des corrections. Et on voit aussi plus de dépenses dans le secteur des entreprises. Là, bien
sûr, les capex de la high-tech américaine, par exemple, mais pas que. Les dépenses d'infrastructures, etc. Tout ça, ça stimule tout un tas de secteurs.
Exactement. On est au cœur de la saison des résultats aux États-Unis. Les hyperscalers auxquels vous faites référence, leurs anticipations de dépenses pour l'investissement autour de l'IA, elles vont être établies aux alentours de 750 milliards de dollars pour 2026. c'est 200 milliards de plus que les anticipations du début d'année. C'est 300 milliards de plus que l'année dernière. Et comme vous le dites, ça vient se refléter dans les bénéfices. Ouais. Si je regarde aujourd'hui la croissance des bénéfices attendus pour les semi-conducteurs américains, elle est de 90%. La croissance des bénéfices attendus du S&P 500, elle est de 19-20% pour cette année. Ouais. La saison des résultats qui est en train de se dérouler actuellement, si elle continue de la façon dont elle a commencé, ça sera la meilleure saison des résultats depuis 2021.
Oui, ça commence à remonter, effectivement. On disait en début d'année... il va falloir quand même peut-être alors soit s'alléger, soit rester sur nos positions concernant les marchés américains et peut-être plutôt regarder du côté de l'Europe. Une sorte de diversification géographique qu'on pressentait. Hein. Est-ce que ce mouvement est déjà fini ou est-ce qu'il va reprendre à un moment donné à la faveur d'un ou de l'autre des catalyseurs qu'on attend sur les marchés ces prochaines semaines ?
Alors, le S&P 500, les actions américaines, ont surperformé dans la correction à la fin du mois de février.
C'est ça.
Et il a surperformé aussi l'Europe comme les marchés émergents dans la reprise. Et il a été tiré notamment par les semi-conducteurs dont je parlais. L'indice de référence des semi-conducteurs, c'est le SOX aux États-Unis. Rebondi de 45% le mois dernier. La dernière fois qu'il a rebondi autant et si rapidement, c'était en février 2000.
Oui, c'était au lendemain de la crise Internet.
Juste avant.
Juste avant,
février 2000, oui. Et si je regarde Nvidia, qui est la figure de proue des semi-conducteurs, les profits de Nvidia ont cru de plus de 2000% depuis le lancement de ChatGPT à la fin du mois, à la fin de l'année 2022. Ouais. C'est 6 fois plus que la croissance des profits des hyperscalers américains. Donc, est-ce que c'est soutenable d'avoir une entreprise ou un secteur qui capte de cette façon l'ensemble de la valeur générée par l'IA dans la chaîne d'approvisionnement ? C'est probablement pas très soutenable sur le long terme, parce que soit les hyperscalers vont dégager plus de profits parce que la demande finale va augmenter, le business case de l'IA, la capacité des entreprises à générer des gains de productivité va être là, et auquel cas la demande va augmenter et donc les hyperscalers pourront se servir de la valeur créée dans cet écosystème, soit ça ne sera pas le cas. Et auquel cas, il va falloir revoir à la baisse les dépenses de CAPEX. Et ça viendra heurter négativement le secteur des semi-conducteurs et l'ensemble, en réalité, de l'écosystème de l'IA.
Oui, c'est clair que ça va provoquer un énorme déséquilibre. Juste, il nous reste une minute, Lilia. Je voudrais qu'on dise un mot. Alors, justement, vous parliez des semi-conducteurs. On a beaucoup parlé des pays émergents là, ces derniers jours. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec le syndrome Magnificent Seven dans les pays émergents, c'est-à-dire que la valeur est concentrée sur... Quelques zones géographiques et quelques valeurs en tant que telles, les Samsung, SK Hynix ou TSMC du côté de Taïwan. Est-ce que c'est un problème pour l'intérêt vis-à-vis des zones émergentes ces prochains mois, cette concentration?
Je pense que dans le scénario bénin de l'IA que j'ai décrit, c'est en réalité une zone du monde qui m'intéresse. Pourquoi ? Parce que les marchés émergents, ce sont les fabricants de l'IA, véritablement, les usines de l'IA. Il y a beaucoup de semi-conducteurs, mais qu'ils ne se traitent absolument pas sur les mêmes multiples que les semi-conducteurs américains. Concrètement, ils sont à la moitié du niveau des semi-conducteurs américains, donc c'est intéressant. Et par ailleurs, on ne peut pas non plus exclure l'idée qu'il y ait une émergence importante d'hyperscalers chinois, par exemple, qui sont peut-être plus contraints par les capacités de calcul, qui seront peut-être plus efficaces, qui vont créer un ROI plus intéressant pour les entreprises. Et j'ajouterai aussi que l'économie chinoise me semble assez bien positionnée dans les années à venir pour capter véritablement les véhicules de la croissance, à savoir la dépense militaire, énergétique et technologique. La Chine crée des data centers, des centres de données à une vitesse bien plus élevée que partout dans le monde. Si je regarde les entreprises de défense listées sur le marché chinois, la croissance attendue de leurs bénéfices est en réalité supérieure à celle des entreprises listées en Europe. Donc dans les deux cas, elle est exceptionnelle, mais elle est davantage plus rapide en Chine. Et évidemment, la Chine est aussi bien positionnée sur le secteur des renouvelables, donc sur le développement de la sécurité énergétique. Elle est leader dans le marché solaire. Donc, c'est toute une zone qui nous semble intéressante dans un contexte positif sur l'IA. Évidemment, vous l'avez dit, MSCI IM aujourd'hui, 35% de l'indice est fait de la tech.
Forcément.
Si vous avez un problème sur la tech, vous aurez un problème sur les marchés émergents. Ça sera moins le cas pour l'Europe, qui a moins de technologie et donc est plus immunisée en cas de retournement.
Lilia Pétavin, JP Morgan Asset Management, merci infiniment d'avoir été avec nous. On passe au coffre-fort.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Violaine Dastorg de Christie's, bonjour.
Bonjour.
Alors, on se posait la question, la dernière fois, bon, l'investissement dans les bijoux de luxe, de collection, les bijoux anciens, etc. Très bien, coffre-fort. Maintenant, ça peut être un investissement actif. Alors, vous savez, dans cette émission, on cherche des produits de placement qui ont de la dynamique, qui ont du rendement, qui ont de la liquidité. Ben oui, on peut envisager l'investissement dans les bijoux anciens un petit peu comme on envisage les investissements dans des produits financiers. Il est question de paramètres qui se ressemblent un petit peu dans certains cas, de fiscalité aussi, etc. Et c'est peut-être aussi un tournant que certains investisseurs prennent sur le marché de l'investissement dans les bijoux en ce moment.
Oui, effectivement, je pense que c'est à un moment donné un actif parmi d'autres que vous pouvez avoir dans tous vos assets patrimoniaux. La joaillerie, au sein de la maison Christie's, le département joaillerie va évoluer au sein d'un cluster, d'un pôle luxury dans lequel vous avez des montres, des sacs à main, du vin, des voitures anciennes qu'on était ravis de revoir à Paris d'ailleurs. Et c'est vrai que les clients aiment s'intéresser à ce sujet-là. Vous savez qu'on parle toujours de ces pierres incroyables avec ces provenance avec la Colombie, le Cachemire, la Birmanie, sont des pierres folles. Et on parle des prix par carat, on regarde les marchés, l'évolution des marchés. Et moi, je voulais vous parler aujourd'hui du pouvoir du patrimoine, en fait, sur ces pierres, sur ces bijoux qui ont des signatures de la place Vendôme, de la rue de la Paix, des maisons de joaillerie dans le monde entier. Et c'est très important d'en parler et de parler du pouvoir de ces signatures sur les bijoux et les pierres qu'on a la chance de trouver dans le monde entier, dans nos ventes et d'offrir à nos clients collectionneurs qui sont de plus en plus intéressés et de plus en plus pointus dans le domaine de l'expertise.
J'allais dire, oui, que quand on investit dans un produit financier, on fait confiance à une société de gestion, à une grande marque, à une grande enseigne. Ben, pareil pour les bijoux. La marque, c'est quelque chose qui assure une certaine forme de liquidité et qui a ses propres paramètres en matière de rendement, de dynamisme, point de vue court.
Tous les marchés ont besoin d'être rassurés.
Voilà, c'est
ça. Et la signature, c'est très important. Ouais. Et je suis ravie d'en parler aujourd'hui avec vous parce que la signature, les archives, le pouvoir du patrimoine dans les maisons, c'est très important. Vous avez ces signatures, mais vous avez aussi des storytelling qui sont importants. Et l'association d'une bonne signature, d'un storytelling, ça donne des adjudications records. Je pense notamment à un très beau collier sautoir Art Déco 1920 de la maison Cartier qui va être vendu le 13 mai à Genève avec une émeraude magnifique gravée. Vous avez un storytelling autour de cette pièce puisque déjà en 1974, sur le plateau du Great Gatsby, Cartier prêtait ses bijoux, toute cette collection des bijoux Art Déco aux acteurs aux côtés de Robert Redford. Donc, vous avez le double effet qui se coule, si je puis dire, de la signature et du patrimoine. Et les maisons nous aident. Figurez-vous que les maisons travaillent de plus en plus de manière approfondie sur leurs archives, parce que leurs archives permettent de constituer des maisons des expositions, et elles permettent aussi de soutenir le marché du retail. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les maisons pour nous aider à avoir des informations sur les commandes, sur les fabrications. On a un autre collier absolument magnifique, un collier boucheron qui représente des rubis avec des fleurs qui sont gravées, ciselées, absolument sublimes, avec des roses, des émeraudes suiffées, des rubis suiffés, avec ces roses que vous pouvez voir qui vont complètement se démultiplier sur un collier qu'on va porter en cravate. Et ce collier a été exposé à la grande exposition des arts décoratifs de 1925. Donc c'est important, si vous voulez, de voir quand vous pensez à ces actifs, quand vous pensez à cette diversification du patrimoine, comme je le dis souvent, de regarder la provenance, l'historique. Parce que à côté des pierres, des prix par carat pour ces pierres sublimes qu'on trouve dans le monde entier, il y a un impact très important dans la valorisation et dans l'adjudication sur l'histoire et le patrimoine.
Totalement, parce que j'allais vous dire, il y a la valeur patrimoniale et c'est très intéressant parce que je regardais un site d'enchères, alors complètement pour autre chose, c'est des voitures de collection. Mm-hmm. Et c'était un site japonais et vous savez que maintenant sur le réseau X, quand on voit les choses, il y a la traduction automatique qui apparaît. Bon, pour le japonais, c'est un petit peu... et il parle... En termes de certaines classes de voitures patrimoniales.
Exactement.
Il ne parle pas de voitures de collection, il ne parle pas de... La valeur patrimoniale, c'est quelque chose qui est vraiment déterminant dans la valeur de ces objets. La valeur artistique aussi, parce qu'on voit qu'il y a une vraie communication.
Mais bien sûr.
La marque Cartier avec tout le mouvement Art déco, et puis tout un tas de bijoutiers. Maintenant, au-delà de ça, et une fois qu'on a déterminé la valeur et la plus-value de l'objet et de l'actif, c'est pas encore la bourse, mais vous avez des marchés de plus en plus efficients. Et là, on peut parler du paramètre liquidité, finalement, de l'actif.
Oui, et puis on peut parler... Et donc, du coup, quand on parle de liquidité, on pense souvent... le bijou, en fait, c'est quelque chose, si vous voulez, qui tient dans un coffre, qui est finalement moins imposant qu'un immeuble demain, par exemple. On parle toujours de ça, et puis c'est liquide. La négociation est très facile, les prix par carat sont normés. Alors, attention, j'étais aussi ravie de vous parler ce matin d'autres pierres aussi qui... Regardez un petit peu ces marchés et regardez un petit peu ces cotes qui évoluent. Bien évidemment, on va parler des diamants de couleur. On a absolument un magnifique exemple, un Blue Green Diamond vivide à Genève de 5 carats 50 qui s'appelle le Ocean, qui est Ocean Dream, qui est une pierre superbe, estimée 7 millions de francs suisses. Et c'est une pierre, si vous voulez, qui montre encore l'importance de ces diamants de couleur sur le marché, qui sont recherchés par tous les collectionneurs, bien évidemment, dans le monde entier. Mais vous avez aussi d'autres pierres dont je voulais vous parler ce matin, des pierres semi-précieuses, des pierres fines comme on les définit. Par exemple, la tourmaline Paraiba. Alors, on part au Mozambique, on part au Brésil. Ce sont des pierres qui sont semi-précieuses, mais qui atteignent des prix absolument records. On a eu la chance de vendre une pierre à New York sur un collier Tiffany, plus de 4 millions de dollars. À Paris, on a vendu une tourmaline sur papier, plus de 900 000 euros. Et on va représenter à Genève, une très très belle tourmaline aussi Paraiba de 14 carats 23, estimée 200 à 300 000 dollars. Donc on voit aussi qu'il y a des nouvelles tendances sur le marché qu'il faut suivre. Et vous avez la chance d'avoir plus d'une vingtaine de spécialistes dans le monde entier, tous plus passionnés les uns que les autres, dans nos différents sites de vente à New York, à Hong Kong, à Genève, à Paris, à Londres. Et on est là pour répondre à nos clients, pour les conseiller aussi en fonction de leurs envies, en fonction de leurs goûts et de leurs demandes.
Très intéressant. Ben, on vous recevra encore autant de fois qu'il le faut pour faire
plaisir.
Le point sur ces tendances qui évoluent. Et voilà, le bijou comme investissement financier, c'est une activité, en tout cas une activité patrimoniale qui vous fait découvrir énormément de choses, puis qui sont source aussi de rendement, de dynamique. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour en parler, Violaine Dastorg de Christie's. Tout pour investir, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve à 15h30 aux côtés de Guillaume Sommerer pour BFM Bourse. Et d'ici là, Marie-Cœur de Roy, les experts de l'IMO. À tout à l'heure.
Tout pour investir sur BFM Business.